Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Donc le Black Friday, le grand événement de vente en ligne et pas en ligne, arrive vendredi. Et tu veux nous parler des pièges du marketing en ligne.
En fait, c'est ça, servir des pièges marketing en ligne. Parce que Patrick, le Black Friday, ça existe encore, le vendredi fou. Mais ça n'existe pas vraiment parce que ça commence 3 semaines avant et ça finit 4 semaines après Noël. Et donc, on se sent épié, analysé, espionné, pointé du doigt. Et pourtant, regardons ce que les outils marketing automatiques font. Et déterminons leur objectif pour jouer avec. Je te donne un exemple. Le premier objectif d'un outil marketing peut être faire transiger un consommateur qui n'a pas transigé ou complété sa commande. Je te donne un exemple, pas sur Amazon parce qu'évidemment c'est centralisé, mais allez sur des sites de compagnies qui vendent en ligne et remplissez votre panier d'affaires que vous voudriez avoir de toute façon et ne commandez pas.
OK, qu'est-ce qui va arriver?
On risque de vous envoyer un message. Vous avez des problèmes avec votre commande? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ah, les frais de transaction sont un peu chers. On veut peut-être finir par vous offrir un rabais ou même la livraison gratuite pour vous convaincre de transiger. Et donc, vous avez ri d'un outil marketing qui calcule le temps entre le moment où vous mettez votre outil, votre bien dans le panier et le moment où vous transigez pour vous en servir contre lui-même. Deuxième objectif qui peut être de l'outil marketing informatisé, pousser un client à faire un premier achat. Donc, consultez des sites directs qui vendent en ligne, mais n'achetez jamais. Cliquez sur des choses, n'achetez jamais, et vous allez être ciblé. Et au fur et à mesure que vous allez être ciblé, moins vous allez consommer, il se peut que dans l'outil marketing, on tente de vous offrir un rabais pour finalement vous faire flancher. Et donc, attendre est toujours payant. Troisième objectif, maintenir un ancien bon client. Bon, là, il y a une stratégie dans l'industrie du web, c'est que tu achètes des choses à un endroit, souvent, puis à un moment donné, arrête. Arrête quelques mois. Là, l'outil de marketing va dire « Hey, Pierre-Yves, Sylvain et Patrick achetaient souvent et tout d'un coup, ils arrêtent. On a perdu un client régulier et donc tu vas être ciblé en fonction de ta consommation et de ton délai de consommation et on va essayer d'aller te rechercher. » Un bon exemple, Uber fait ça, Uber Eats. On va t'offrir des rabais si tu consommes régulièrement puis tu arrêtes tout d'un coup. On va essayer de t'appeler. Donc, les vêtements, même chose. Tu vas prendre tes vêtements à une boutique régulièrement, puis hop, on va t'oublier, ou tu vas les oublier. On va tenter d'aller te rechercher. Profite de ça. Quatrième objectif des outils de marketing informatisé, obtenir des nouveaux clients avec une offre allégeante. Et donc, je te donne un exemple. Les fameuses boîtes repas qui te donnent tout le temps des rabais au début. Ah, obtenez 25...
Les boîtes repas à la Good Food.
Oui, à la Good Food, à la Coquette, Miss Fresh et autres. Mm-hmm. Là, il y a des trucs là-dedans, Patrick, qui sont corrects et pas corrects. Bon, le premier, c'est de dire, utilise les rabais, mais fais-toi un réseau de voisins. Et dans le fond, référence soit des fausses adresses courriel que tu as toi-même créées, ou bien tes propres voisins et tu fais une rotation. Donc là, tu passes de Cookie à Good Food, à un autre, à un autre, à un autre. Et donc, une fois que tu as eu les rabais de la première fois, tu ne consommes plus. Là, l'outil marketing va dire, bon, Patrick a déjà acheté des boîtes, que se passe-t-il? On va lui renvoyer une promotion pour le tenter qu'il l'utilise. Et il y a ce que j'appelle une communauté de bougons, des boîtes repas, qui justement, ils vont prendre une compagnie une semaine, pendant 2-3 semaines, vont arrêter, vont aller chercher les options de l'autre compagnie, donc vont profiter du budget marketing de croissance de ces compagnies-là pour passer d'une à l'autre. Et donc, d'avoir toujours des rabais sur leur boîte repas. Il y a une limite à un moment donné. Mais dis-toi que le marketing est fait pour que tu consommes, mais pourquoi toi, tu n'aurais pas le droit d'utiliser ce marketing-là pour travailler contre lui-même? Mais
où tu apprends tous ces trucs-là?
Mais il y a des bougons qui m'envoient des courriels, du coup. Mais il y a surtout l'expérience, Patrick. Moi, je regarde beaucoup de choses. Et je regarde beaucoup de choses sur Internet pour analyser. Et à un moment donné, je suis moi-même ciblé par le marketing. Et donc, je remarque une récurrence. Exemple, quand tu donnes ton adresse courriel pour aller voir des condos, c'est sûr que tu te fais acheter après. Là, juste sur mon texto ici, là, j'ai 7 messages de 4 projets de condos différents qui m'envoient, je ne vais pas acheter là, qui m'envoient, voulez-vous profiter d'un parking gratuit? Voulez-vous profiter de 10 000 $ de rabais? Tu sais, un Black Friday, c'est un condo. Donc, le truc, c'est d'embarquer dans la base de données et au lieu d'être victime de la base de données, essayer de trouver l'objectif de la base de données pour travailler contre elle. Alors, si l'entreprise travaille contre toi pour jouer dans ton cerveau, toi, tu peux jouer dans leur outil. Bon, il y en a qui vont me dire que je ne suis pas correct de parler comme ça parce que.
Ben
ça,
voyons.
Ben, parce que ça peut nuire à des entreprises qui essaient de faire leur place. Vrai. Mais moi, je trouve que quand la machine est rendue avec des algorithmes de fou pour contrecarrer ma volonté de ne pas consommer ou de consommer intelligemment, moi aussi, je peux regarder comment les algorithmes fonctionnent en constatant leurs mécanismes et en me joignant de ceux-ci, tu sais.
OK. Parle-moi des constats d'affaires là, qui ont été mis en évidence par le coronavirus.
Ben oui. En fait, ce qui a été remis en évidence, il y a des choses qui existaient, mais qui ont été amplifiées. Je te donne un exemple. Les services professionnels. Tu sais, le notaire, le comptable, l'avocat. On regardait les professionnels en disant « Ah, vous êtes en affaires, mais tu sais, vous n'êtes pas comme une entreprise qui produit des biens et tout ça. » Non, mais eux, pendant la COVID, ont eu un petit sourire en coin. Parce que les services numérisés ont été possibles. Ils ont pu faire des services à distance. Les notaires n'ont jamais été occupés comme ça. Ça n'a aucun sens. Et dans le fond, leur modèle d'affaires n'est pas basé sur un très grand volume de clients qui entrent en même temps dans un local commercial. Et donc, la COVID a moins affecté les services professionnels dans une certaine mesure. D'autres constats qu'on a mis le doigt, c'est sur les locaux commerciaux. Là, il y a une pression très forte de l'économie sur le fait de se questionner, est-ce que les locaux commerciaux, qui avaient une très grande valeur avant la pandémie, ont, un, gardé leur valeur, deux, est-ce qu'ils maintiennent leurs promesses, et trois, n'y aurait-il pas logique de renégocier tout ça après la pandémie? Parce que si tu dis au commerce de détail, je t'amène de l'achalandage grâce à mon local, il faut que tu livres la promesse. Et dans les centres commerciaux, ça n'a pas tout à fait été ça. Dans les locaux commerciaux des rues commerciales, ça n'a pas empêché le gouvernement de fermer des entreprises. Et donc, la valeur du local commercial n'est plus la même.
Mais tu sais comme moi que locataires et locateurs dans le commercial, ils n'ont pas tout à fait le rapport de force n'est pas le même partout.
En même temps, oui, puis non, parce que mettons que tu es locataire dans du semi-commercial sur l'avenue Mont-Royal, Masson ou d'autres, des locaux commerciaux ou semi-commerciaux qui étaient basés sur la restauration, par exemple. Mm-hmm. Il y a des grands groupes qu'on connaît les noms et qui sont basés là-dessus. Mais là, tu te rends compte que les secteurs dans lesquels tu te concentres pour trouver des locataires, ben les propriétaires de ces commerces-là commencent à se poser des questions. Si tu as des restaurants ou des bars aujourd'hui, il y a des propriétaires qui m'ont avoué qu'ils veulent sortir du milieu pour toujours. C'était déjà un milieu difficile. Là, c'est rendu super précaire. Essaye de revendre le fonds de commerce d'un bar aujourd'hui si tu n'as pas de machine à poker. Mm-hmm. Bonne chance. Les coûts fixes sont élevés. La clientèle est basée sur l'achalandage. Il n'y a pas d'achalandage. Et donc, autant les locataires commerciaux que les locataires commerciaux de certains secteurs sont moins enclins à vivre une réalité commerciale dans ces milieux-là. Même les assureurs ont dit, vous savez quoi, les restaurants et les bars, peut-être moins. Ils ont beaucoup de coûts et ils ont beaucoup de risques. Et l'autre patente qu'on a vue, c'est le numérique, pas juste la vente en ligne, mais tout ce qui est numérisé au niveau des opérations. Les entreprises qui étaient déjà numériques, des bureaux comptables, c'est un bon exemple, ou d'autres, des entreprises qui étaient déjà avec une base de données bien implantée, quand il est venu le temps de travailler à distance, tout ce qu'on a eu à faire, c'est transporter des ordinateurs et continuer à travailler.
Oui.
Mais des entreprises qui se sont acharnées à être sur un modèle d'affaires moins numérique, moins numérisé, ont payé le lourd prix. Je connais, tu sais, tu as des éditeurs qui travaillent peut-être à mi-temps, tu en as d'autres qui étaient en télétravail déjà. Mm-hmm. Tu as des bureaux comptables qui ont des gros bureaux au centre-ville et d'autres qui étaient à distance avec des clients, une clientèle choisie pour ne pas avoir à gérer du travail sur place. Moi, je trouve ça fascinant de voir, entre un entrepreneur et un autre, de deux milieux différents, mais surtout de deux modèles, comment ça a influencé leur travail et leur capacité de gagner des revenus.
Intéressant.
Va te commander une boîte repas, Patrick.
Non, toi, commande-moi-en une. T'as l'air à connaître
bon.
Ça.
Bye bye.